C'est le journal d'Antoine Mercy. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Les heurts se poursuivent sur le site de Notre-Dame-des-Landes. La police évalue à 200 le nombre d'individus qui se seraient venus soutenir les zadistes et qui seraient actuellement sur place. On fera le point avec Véronique Reberotte. Une nouvelle journée morte dans les tribunaux. Les personnels s'inquiètent notamment du projet de suppression des tribunaux d'instance. Reportage de Mathieu Mondoloni à Boulogne-Billancourt. Le défenseur des droits rend public son rapport annuel sur l'année 2017. Jacques Toubon dresse le portrait d'une France qui souffre, dit-il, d'un retrait des services publics, nous l'entendrons. À Air France, le mot d'ordre de grève est maintenu, mais la majorité des syndicats acceptent de se rendre demain à la négociation proposée par la direction, suivie du conflit avec Hakim Kasmi. À l'étranger, c'est la montée des périls en Syrie. Après cette attaque chimique présumée, l'OMS assure qu'il y a bien eu quelques 500 patients qui se sont rendus dans des centres de soins et qui présentaient des symptômes évoquant une exposition à des agents toxiques. Le président américain a annulé un déplacement prévu en fin de semaine. La Russie assure que tout missile tiré sur la Syrie sera abattu, analyse avec Eric Biegala. Et puis après le Sénat, le patron de Facebook s'explique devant le Congrès, aujourd'hui Congrès américain. Hier, il a de nouveau présenté ses excuses personnelles pour ne pas avoir compris à temps à quel point Facebook pouvait être détourné de bien des façons. Compte rendu de cette audition avec Eric Chavroux, l'invité de la séquence interview, Gilles Roussel, qui est le président de la conférence des présidents d'université. Voilà pour les titres et voici le développement. Les heurts se poursuivent donc sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Les gendarmes répliquent toujours aux projectiles qui sont lancés par un groupe d'environ 70 zadistes par des tirs de grenades, grenades lacrymogènes, de grenades de désenclavement, également de désencerclement. La préfète de la région Pays de la Loire, Nicole Klein, dénonce la présence d'opposants qui sont uniquement, dit-elle, venus casser du gendarme. La police évalue en tout cas à quelques 150 ou 200 le nombre d'individus qui seraient venus sur place pour soutenir, prêter main forte à ces zadistes. Et c'est bien l'arrivée de ces renforts qui inquiètent les autorités et qui pourraient, Véronique Reberotte, rendre cette opération d'expulsion très périlleuse.
Mais sur le papier, venir expulser avec discernement une centaine de zadistes de Notre-Dame-des-Landes était déjà une perspective périlleuse. Sur le terrain, la tâche des gendarmes, même mobilisés par centaines, se révèle dangereuse, voire impossible, on se le demande, à mener. Des dizaines de blessés de part et d'autre, avec un risque évident désormais d'escalade dans la violence et dans l'isolement. 24 heures, de nombreuses opposants à l'aéroport et défenseurs aujourd'hui d'une ZAD terre d'expérimentation. Pour faire court, ont convergé sur le site des affrontements, vous l'avez dit, peut-être 150-200 personnes, avec des rumeurs d'arrivée encore plus de renforts, des Basques, j'ai entendu ça hier, venus en bus, des opposants venus de pays limitrophes, la Belgique, l'Italie, l'Espagne ou encore de secteurs bien plus proches. La ZAD, vaste bocage, n'est pas encerclée par les gendarmes mobiles et contourner les accès de la ZAD contrôlée par la gendarmerie est tout à fait possible. Jusqu'à présent, en tout cas. Sont arrivés aussi sur la ZAD des opposants venus, je cite, croit savoir la préfète, vous l'avez dit, de Loire-Atlantique, des opposants venus casser du gendarme. Pas seulement, car hier, ce sont des agriculteurs historiques dont la plupart avaient pris leur distance avec leurs zadistes, les zadistes, qui sont venus repositionner leurs tracteurs auprès de fermes, de jardins menacés, scandalisés par la destruction de bâtiments agricoles et par la tournure aussi que prend cette opération. Opération ou pas terminée ce week-end, en tout cas, les zadistes invitent tous ceux qui avaient répondu nombreux aux appels de manifestation jusque-là contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à venir participer à une fête de réinstallation sur la ZAD, donc dès ce week-end. En tout cas, c'est une impasse totale, on peut le dire ce matin, entre un gouvernement qui se dit conforté dans la poursuite de son opération d'expulsion face à la réponse déterminée des zadistes et ces mêmes zadistes qui promettent à l'État un César 2, référence à l'opération César, opération d'évacuation de la ZAD en 2012 qui avait tourné au fiasco.
Merci beaucoup Véronique Reberotte. Et hier, vous avez pu recueillir le témoignage d'un de ces occupants du site qui illustre bien une partie de l'état d'esprit des zadistes. Il était lui aussi de l'opération César que vous évoquiez en 2012 et il répond donc à vos questions.
Ce qui se dessine, c'est plus ou moins une guerre d'usure. Donc nous, il faut qu'on économise nos forces. Une guerre d'image, une guerre de communication. On va faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et suite à l'opération César, je vais un petit peu parler de moi. En fait, c'est grâce à Vinci et à l'État en 2012 que j'ai trouvé ma voie, que je suis devenu paysan. Quand on a gagné en 2012, avec des amis, ça nous a donné envie de travailler la terre, d'habiter un territoire, de le faire vivre, et donc par le biais de la paysannerie. Et donc je suis devenu maraîcher. Je suis devenu maraîcher, et voilà, donc aujourd'hui je remercie l'État et les forces armées. Non, je plaisante, mais donc là je reviens pour voilà, participer à les ralentir, à les fatiguer, à les épuiser. Je pense que la ZAD, elle va perdurer, la ZAD, elle va se reconstruire. Au-delà de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que des poches de résistance, une sorte de ZAD, il y en a presque partout. Et ça, c'est intolérable pour l'État, qui est des territoires qui échappent à son contrôle. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est des poches de résistance, que ce soit au Rojava en Syrie, que ce soit en Grèce, à Tolbiac, dans les universités bloquées. Aujourd'hui, ça pète de partout, il y a des poches de résistance, elles se multiplient. Et je pense que ça, c'est notre force, qu'on soit aussi malin pour pas tout se centraliser sur un front, mais les multiplier, ces fronts-là. Et ça, c'est notre puissance qui nous permettra de garder l'initiative, de multiplier les initiatives à droite à gauche, de bloquer en fait le plus possible la politique de l'État et son économie capitaliste qui ravage le vivant. Et voilà, et on est du côté du vivant.
Voilà, des propos recueillis par Véronique Robérotte, merci. Le président de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, affirme avoir demandé ce matin l'intervention des forces de l'ordre sur le site de Tolbiac, qui est occupé maintenant depuis la fin du mois de mars. Il estime que la ligne rouge a été franchie après les violences constatées dans le centre Pierre Mendès France, qui ne permettent plus, dit-il, d'assurer la sécurité des personnes. Et selon la préfecture de police à l'instant, eh bien, la préfecture de police indique ne pas avoir donné suite à une demande en ce sens du président de Paris 1. On salue l'invité de la séquence interview, Gilles Roussel. Bonjour.
Bonjour.
Président de la conférence des présidents d'université. Bon, qu'est-ce qui va se passer à Tolbiac? Intervention? Pas intervention?
Je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'intervention. En tout cas, compte tenu de la situation, je pense que c'est très périlleux pour la police d'intervenir dans ce site, qui est quand même un site très particulier, une université avec voilà, une seule entrée, des étages importants et des risques très importants. Sur le site.
Donc, à mon sens, ça veut dire peut-être demain.
Peut-être demain, si la situation évolue.
Comment ça évolue globalement, ce mouvement ?
Globalement, il y a une augmentation, une légère augmentation là, en début de semaine avec Nanterre et les événements qu'il y a eu sur Nanterre de sites qui ont été un petit peu occupés, des amphis. En revanche, il y a une mobilisation hier dont on pouvait penser qu'elle allait être très large. Et en fait, on a eu au maximum 1000 personnes réunies sur la place de la Sorbonne, ce qui est quand même pas très important.
Voilà, on reparle de tout ça. Gilles Roussel dans la séquence interview. Merci pour ce premier commentaire. Magistrats, greffiers, avocats mobilisés aussi pour cette nouvelle journée morte dans les tribunaux, des personnels de justice qui s'inquiètent, notamment du projet de suppression des tribunaux d'instance, qui sont un rouage essentiel, selon eux, de la justice de proximité. Reportage en exemple de Mathieu Mondoloni dans un de ces tribunaux, c'est à Boulogne-Billancourt.
Dans son bureau, la vice-présidente du tribunal, Viviane Bretenoux, épluche ses dossiers. Il y en a des dizaines dans toutes les pièces et les piles ne diminuent pas. Bien au contraire, explique celle qui est aussi déléguée régionale adjointe de l'Union syndicale des magistrats.
Ils ont été reçus le 6 avril et malheureusement, il y a des délais d'attente d'environ 6 mois.
Comme les autres personnels de justice, elle croule sous les jugements à rendre et s'inquiète aujourd'hui du projet de réforme de Nicole Belloubet.
Le projet prévoit la fusion, en fait, des tribunaux d'instance absorbés par les tribunaux de grande instance. Au lieu de nous donner autant de personnel que de besoin pour fonctionner et rendre la justice dans les délais raisonnables, on va empêcher les gens d'avoir accès à un débat contradictoire.
Au même étage, de l'autre côté du couloir, le bureau des greffes, sur les étagères, des milliers de dossiers qui attendent d'être traités et classés par Khadija Moualif et ses collègues greffiers, elle aussi s'inquiète de ce projet de réforme.
C'est à notre tour, retraiter les cheminots, les fonctionnaires. Économie, hein. C'est pas pour améliorer la justice. Hein.
Tout à l'heure, Khadija sera dans le cortège des manifestants aux côtés d'autres greffiers, des magistrats, mais également des avocats. Tous enfileront leurs robes et défileront unis contre le projet du gouvernement.
Le défenseur des droits rend public ce matin son rapport annuel sur l'année 2017. Jacques Toubon dit avoir épluché 90 000 dossiers à partir desquels il dresse le portrait d'une France qui, dit-il, souffre d'un retrait des services publics. Quel portrait donc de la France en 2017 se dessine à travers tous ces courriers reçus? Réponse de Jacques Toubon reçu ce matin sur France Inter.
Un pays qui manifestement souffre d'un retrait des services publics, c'est-à-dire du fait que l'accès aux droits semble rendu plus difficile par le fait que l'accès aux services publics est plus complexe et plus rare, dans la mesure, par exemple, où il suffit de lire les journaux le matin pour voir que dans telle ou telle commune a fermé un centre de sécurité sociale ou un bureau de Pôle emploi, etc. Et ceci, naturellement, ne peut pas être pallié par la dématérialisation. Parce que dans la dématérialisation, il y a quelque chose qui n'est pas accessible pour une partie des gens. Et puis, il y a des mots collectifs qui sont simplement les mots d'une époque où nous avons le sentiment que l'indifférence est en train de monter et que d'une certaine façon, le défenseur des droits est une arme anti-indifférence. Nous disons, nous, voyez les choses et non pas faites comme si elles étaient invisibles.
Ne détournez pas le regard.
Jacques Toubon avec Nicolas Demorand. À Air France, le mot d'ordre de grève est maintenu, mais la majorité des syndicats acceptent maintenant de se rendre, ce sera demain, à cette négociation qui a été proposée par la direction. Plusieurs centaines de pilotes, de personnel de cabine et de personnel au sol d'Air France étaient encore rassemblés ce matin devant le siège de la compagnie à Roissy pour réclamer, disait-il, des pépettes et pas des miettes. La direction a fait une nouvelle proposition hier soir avec une augmentation proposée donc salariale de 2%. Hakim Kasmi, est-ce que tout cela est le signe du début d'un déblocage?
Eh bien, pour l'instant, non. Si les syndicats acceptent de revenir à la table des négociations, ils rejettent les propositions faites hier soir par la direction d'Air France, qui est prête à bien revenir en arrière, légèrement, en augmentant de 2% les salaires de façon générale, ainsi qu'en mettant en place des négociations pluriannuelles sur les salaires pour la période 2019-2021. Les syndicats, pour l'instant, maintiennent leur préavis de grève, prévu la semaine prochaine, mardi et mercredi, mais cela pourrait évoluer demain en fonction des négociations avec la direction d'Air France. Les partenaires sociaux estiment avoir fait déjà de nombreux efforts ces dernières années. Depuis 2011, les salaires sont gelés et les différents plans de restructuration ont vu la suppression de plus de 10 000 postes, les personnels au sol ayant payé le plus lourd tribut. De plus, ce qui ne passe pas, c'est aussi la méthode, car les syndicats ont appris, en même temps que nous, journalistes, hier soir, les propositions de la direction, ce que je peux vous confirmer pour les avoir eues dans la foulée. Un commandant de bord me disait encore ce matin qu'il avait l'impression de revenir 2 ans en arrière, à l'époque d'Alexandre de Juniac, l'ancien PDG d'Air France, qui avait, c'est vrai, pour habitude, très souvent de faire ses grandes annonces concernant la compagnie dans les médias avant d'en parler aux salariés et aux partenaires sociaux. En attendant, si la direction accepte de monter à plus de 3% sa hausse générale des salaires, il se pourrait que les préavis de grève soient levés, mais cela reste du conditionnel, car Antoine, c'est un jeu de poker menteur entre la direction et les syndicats.
On en est à 2%, donc il faudrait que ce soit 3% selon vous pour que ça se débloque. Effectivement, Hakim Kasmi, merci beaucoup. C'est dans ce contexte social très difficile pour le gouvernement et pour le chef de l'État en particulier que l'ancien président Hollande prend la parole dans un livre sur son quinquennat, un livre intitulé « Les leçons du pouvoir ». « Mes gouvernements réduisaient les inégalités, celui-là les creuse », écrit François Hollande. « Aujourd'hui, ce sont les très riches qui bénéficient de la croissance et les faveurs fiscale. La question des inégalités va devenir criante, ici comme partout dans le monde. C'est ce qu'il déclare dans un entretien à l'Obs. François Hollande qui montre donc une nouvelle fois toutes ses qualités d'analyste politique. Frédéric Saïs.
C'est effectivement le dernier pouvoir qui reste à l'ancien président, celui de la formule et du commentaire, à la fois sur l'actualité, par exemple la réforme du statut des cheminots qui devrait laisser plus de place à la négociation, juge François Hollande, qui reconnaît pour sa part avoir péché dans ce domaine lors de la loi El Khomri. Sur la fiscalité, l'ancien président fustige le creusement des inégalités, il met en regard la hausse de la CSG pour une majorité de retraités et la suppression partielle de l'impôt sur la fortune. Et puis enfin, l'ancien président passe au laser la méthode de son successeur. Dans le journal Le Monde, il relève la distinction entre Nouveau Monde et Ancien Monde, distinction chère aux marcheurs macronistes. L'ancien monde a un nom, ça s'appelle la démocratie, lance François Hollande. La démocratie avec des partis politiques, des syndicats, une presse et un parlement, comme une critique envers une pratique solitaire du pouvoir d'Emmanuel Macron. L'ensemble de ces reproches porte un regret, ne pas avoir vu plus vite l'ambition cachée de son ex-collaborateur, un regret et un but. En critiquant le premier bilan de son successeur, François Hollande tente de rehausser le sien propre. L'ancien président socialiste se souvient des critiques, on l'a dit tour à tour, trop libéral, trop autoritaire, trop isolé. Il entend montrer que ses qualificatifs étaient bien exagérés, au moins par comparaison.
1h15 sur France Culture, l'actualité à l'étranger avec d'abord la Syrie où il se confirme que la ville de Douma dans la Ghouta orientale a bien été visée samedi dernier par une attaque chimique. En tout cas, l'Organisation mondiale de la santé déclare que quelques 500 patients se sont bien rendus dans ces centres de soins en présentant des signes et des symptômes qui évoquent une exposition à des agents toxiques. L'OMS qui réclame d'ailleurs un accès immédiat et sans restriction à cette ville de Douma pour apporter des soins aux victimes. Il se confirme parallèlement qu'une intervention américaine américano-franco-britannique est en préparation. Le président américain, qui avait parlé en début de semaine d'une décision très bientôt, vient d'annuler un déplacement prévu en fin de semaine au Pérou. Emmanuel Macron précise que d'éventuelles frappes françaises vont s'attaquer aux capacités chimiques détenues par le régime et non pas aux alliés de ce dernier. La Russie assure de son côté que tout missile qui viendra à être tiré sur la Syrie sera abattu et la Russie ajoute que les sites d'où ils auront été tirés seront bien pris pour cible également, ce qui marquerait évidemment une très grave escalade dans ce conflit. Éric Biégala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Les frappes occidentales se préparent apparemment, effectivement. Est-ce qu'il faut craindre une réplique des Russes également?
Alors ce qui est certain, c'est qu'une certaine fébrilité règne d'ores et déjà sur la zone de la Méditerranée orientale, plus précisément entre les côtes syriennes et Chypre. Le contrôle aérien européen, par exemple, a averti dès hier soir les aviateurs évoluant dans la zone, les invitant à la prudence dans les prochaines 72 heures en raison, je cite, de possibles frappes aériennes ou tirs de missiles de croisière en direction de la Syrie. Eurocontrol souligne que le fonctionnement de l'équipement de radionavigation des appareils civils risque d'ailleurs d'être perturbé en cas d'opération militaire. Par ailleurs, un OTAM, c'est-à-dire un avis d'information au personnel navigant émis par les autorités chypriotes, fait également état, pour aujourd'hui, de tirs d'exercice russes au large des côtes syriennes, précisément sur la zone où hier, un Poseidon de US Navy, un avion de guerre électronique, a cerclé pendant des heures et des heures en vue des côtes syriennes juste en face de la base russe de Meymim au sud de Latakia. Mais pour le moment, la force de frappe des Occidentaux dans la région est encore limitée. Les Américains disposent sur place probablement de quelques sous-marins lanceurs d'engins et d'un destroyer lance-missile, l'USS Donald Cook, qui faisait relâche à Chypre mais qui a repris la mer depuis lundi. La 10e force d'action navale américaine autour du porte-avions Harry Truman doit quitter Norfolk ce mercredi, direction la Méditerranée orientale, mais elle ne sera à pied d'œuvre que d'ici une semaine au mieux. La frégate française Aquitaine, également armée de missiles de croisière, est elle aussi sur zone. Le week-end dernier, elle a d'ailleurs été visitée par des chasseurs bombardiers russes de Meymim. Mais ces missiles de croisière, elle n'en emporte qu'une quinzaine contre plus de 80 pour un destroyer américain, resteront notoirement insuffisants pour la réponse ferme que les Occidentaux entendent vouloir envoyer en Syrie. Pour rappel, l'an dernier, lors de la frappe de représailles américaine, après le bombardement chimique de Khan Cheikhoun, c'est une volée de 59 missiles de croisière que deux destroyers américains avaient envoyé sur un seul objectif syrien, la base aérienne de Shayrat, sans d'ailleurs en détruire les principales infrastructures. Quelques heures après la frappe américaine, les avions syriens continuaient d'utiliser le tarmac de la base.
Éric Biégala, merci. Un avion de l'armée algérienne qui transportait plus d'une centaine de militaires s'écrase peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik, c'est à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Catastrophe qui aurait fait 181 morts, selon les indications données tout à l'heure par les télévisions algériennes. L'avion accidenté serait un Ilyushin 76 quadriréacteur de fabrication soviétique puis de fabrication russe. Le patron de Facebook s'explique devant le Congrès américain aujourd'hui. Mark Zuckerberg répondra aux questions d'une commission de la Chambre des représentants après celle hier soir de 44 sénateurs, une audition qui a duré quand même 5 heures et au cours de laquelle il a de nouveau présenté ses excuses personnelles pour ne pas avoir, dit-il, compris à temps à quel point Facebook pouvait être détourné de bien des façons. Il affirme que le réseau social est sûr malgré tous les cas avérés de manipulation et de détournement de données personnelles, comme le prouve le scandale Cambridge Analytica. « Nous ne vendons pas de données aux annonceurs », martèle-t-il par ailleurs. « Nous leur permettons simplement de mieux cibler les utilisateurs plus finement pour que leur message soit plus efficace. » Et il reconnaît bien que c'est le cœur du modèle économique de Facebook. Bonjour Éric Chabroux.
Bonjour Antoine.
Mark Zuckerberg, au total, ne semble finalement, en tout cas au cours de cette audition, n'a pas semblé aussi sûr que ça de sa conception de la vie privée.
Cela restera un symbole de l'audition inédite de Mark Zuckerberg, symbole très parlant quand le sénateur démocrate de l'Illinois Dick Durbin lui pose cette question, mine de rien, écoutez la réponse mais aussi les silences du responsable des données de 2 milliards d'utilisateurs.
Monsieur Zuckerberg, est-ce que vous seriez à l'aise de nous dire dans quel hôtel vous avez dormi?
Non.
Est-ce que vous pouvez nous lire vos textos que vous avez reçus la semaine passée?
Sénateur, non, je ne pense pas que je partagerai ça ici publiquement.
C'est cela dont il s'agit, le respect de la vie privée des gens.
qu'il est loin le temps du croisé de la transparence, quand Mark Zuckerberg estimait que la vie privée était un concept dépassé, qu'il ne croyait pas à cette notion-là. Hier, celui qui ne s'exprimait pas sous serment a aussi relevé d'une phrase que parfois les Européens obtiennent des choses bien. Allusion, semble-t-il, à une réglementation des données personnelles de plus en plus stricte, en particulier avec un règlement européen qui entrera en vigueur fin mai. Facebook est sûr, je m'en sers, ma famille s'en sert, continue à affirmer celui à qui l'on a prêté des ambitions présidentielles. Mais face à certaines questions sensibles, par exemple sur le traçage des utilisateurs, Mark Zuckerberg n'a cessé de renvoyer entre deux verres d'eau à des explications avec ses équipes. Quant à l'autorégulation, cela pourrait changer, a admis celui qui a aussi répété qu'il ne vendait pas de données. D'accord pour une réglementation, mais si c'est la bonne, selon lui. Mais un sénateur démocrate de Floride de mettre en garde, si les réseaux sociaux ne réparent pas ou ne veulent pas réparer les intrusions dans la vie privée, nous le ferons, nous, le Congrès. Et quand un autre sénateur souligne que le contrat de service craint, je cite, que les conditions d'utilisation sont illisibles, le cofondateur du réseau avoue lui-même qu'il ignore combien d'utilisateurs les ont réellement lus. En attendant de savoir si Facebook a justement perdu la confiance de ses utilisateurs. Les investisseurs ont salué cette première audition. Le titre du groupe a fini en hausse de 4,5%, sa meilleure performance depuis près de 2 ans.
Éric Chavroux, merci. On revient vers l'invité, donc de la séquence interview. Gilles Roussel, président de la conférence des présidents d'université, interrogé par Hakim Kasmi.
Gilles Roussel, bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, on va parler de la réforme de l'université, mais Parcoursup, mais avant tout, peut-être un mot sur ce qui se passe en ce moment dans les universités, notamment les étudiants qui dénoncent, une partie d'entre eux, en tout cas la réforme, avec des violences que l'on a pu voir, notamment à Nanterre, lundi, violences policières. Quelle a été votre réaction ?
Alors, dans le cas de l'intervention de la police dans les universités, donc il y a eu des interventions dans plusieurs sites, hein, en général, donc c'est de la responsabilité du président d'université et les présidents d'université prennent pas la décision à la légère. En général, quand ils prennent de façon habituelle, quand ils prennent ce type de décision dans les cas habituels, bien c'est parce qu'il y a des risques pour la sécurité des personnes ou bien il y a des personnes qui sont non autorisées puisque voilà dans une université tout le monde n'a pas le droit de rentrer, c'est soumis à l'autorisation du président de l'université. Et donc dans le cas où il n'y a pas l'autorisation, on peut être amené à faire intervenir les forces de l'ordre assez régulièrement dans les universités. Hein.
Mais est-ce que vous ne craignez pas que cela puisse mettre de l'huile sur le feu ? On se souvient de Montpellier aussi, il y a quelques jours, où le président, voilà, c'était avec d'autres enseignants, mêlé à l'affaire pour débloquer l'université.
Alors, c'est deux cas extrêmement différents. Dans un cas, on a une situation à Nanterre où il y a eu des effractions. En fait, il y a eu des gens qui sont rentrés dans un bâtiment par effraction, qui n'étaient pas autorisés à rentrer dans le bâtiment. Et donc, bon, on est quand même dans un état de droit, même dans l'université. Hein, donc, il faut quand même le rappeler. Et donc, le président a décidé de faire intervenir les forces de l'ordre. Voilà, il y a un message symbolique autour de cette intervention et qu'il faut pas minimiser, mais voilà, la légitimité de faire intervenir, elle est pas due nécessairement à cet aspect symbolique. Et puis de l'autre côté, on a eu à Montpellier des choses là qui sont totalement inacceptables, qui n'ont rien à voir avec une autorisation d'un président, et ce n'est pas les forces de l'ordre, c'est des groupuscules qui sont rentrés dans un amphithéâtre pour en découdre.
Alors, pour revenir au fond de la réforme, Parcoursup qui entre en vigueur, alors, on voit bien aujourd'hui, il y a une sélection qui ne dit pas son nom. Il y a des problèmes.
Je réfute, moi, le terme sélection.
Bon, on va laisser la querelle de terme, peut-être de côté.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura désormais des prérequis, notamment dans les filières sous tension. Malgré tout, aujourd'hui, on voit que certains enseignants, boycottent, puisqu'ils ont déjà indiqué qu'ils ne rempliraient pas au lycée, par exemple, les fiches à venir. Hein, où on met, par exemple, les notes et les avis des conseillers de classe. Vous, dans quel état d'esprit êtes-vous, d'autant que vous êtes vous-même président d'une université, celle de Paris-Est?
Voilà, donc c'est une situation effectivement un peu compliquée quand voilà un certain nombre de personnes ne veulent pas mettre en œuvre des aspects de la réforme. Pour autant, alors d'une part, on peut comprendre pour certains la réticence. Quand même, la réforme a été mise en place de façon extrêmement rapide et donc s'approprier un certain nombre de choses de tri de dossiers, de nouveautés, d'appréciation à mettre pour les élèves. C'est vrai que c'est des choses voilà qu'on a du mal à s'approprier tout de suite. Et donc, voilà,
Selon vous, il fallait mettre en place cette réforme. Oui, il faut accepter que tout le monde ne peut pas forcément intégrer l'université avec les 60% d'échecs en première année.
Voilà, donc il y a deux choses. Tout le monde ne peut pas aller à un endroit donné. Voilà, quand vous avez 10 000 étudiants qui veulent aller dans une filière où il y a 100 places,
tout le monde ne peut pas être. Donc il faut bien choisir. Donc la loi ORE, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplace la répartition des jeunes entre les différentes filières. Plutôt que ce soit un tirage au sort, elle le fait par une analyse des dossiers. Ouais, c'est
analyse des dossiers, c'est là où le bât blesse peut-être, parce qu'hier, les enseignants qui ont saigné cette tribune dont on s'en est l'écho dans le journal d'hier, disaient « c'est pas possible à appliquer, on est obligé de prendre des algorithmes pour essayer de classer les gens », et finalement tout ça, disaient « c'était un truc de fou, on marche sur la tête ».
Voilà, alors, bon, il y a bien sûr, donc ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il y a une vraie nouveauté, et donc un tri des dossiers pour certains qui n'avaient pas l'habitude de le faire, mais on sait que dans certaines filières, on le faisait déjà, nos IUT tri, qui sont des filières universitaires, tri déjà des dossiers. Il y a beaucoup de filières sélectives.
46%.
Voilà, il y a des filières déjà sélectives qui font ce type d'analyse. On sait le faire. La question est plutôt, a-t-on les moyens de le faire? A-t-on les moyens de le faire? Aujourd'hui, on peut considérer qu'on n'a pas nécessairement suffisamment de moyens, et on avait alerté au niveau de la présidence, de la conférence des présidents d'université, sur le fait qu'il y avait besoin probablement de plus de moyens pour cette réforme. Pour autant, c'est pas quelque chose qui est insurmontable.
Merci beaucoup Gilles Roussel d'être venu dans ce studio, président de la conférence des présidents d'université. Météo France place en vigilance orange aux orages et aux pluies, inondations, département du Var et des Alpes-Maritimes jusqu'à demain soir. Un temps généralement perturbé donc sur toute la moitié sud, plus calme sur le nord, température 12 à 20 degrés. Édition réalisée avec François-Charles Domergue. Le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.